Édition spéciale consacrée à cette post-dissolution et cette campagne qui démarre de la manière la plus chaotique qui soit, en particulier chez les Républicains. On va reparler de la démission d'Éric Ciotti. Aujourd'hui, le président de la République a pris la parole. Et on a à l'Élysée Gabriel Attal, le Premier ministre, qui vient d'arriver. Justement, c'est à l'Élysée que nous retrouvons Anne-Sora Dubois en direct pour BFM TV.
Bonjour Alain, absolument, il y a 4 minutes exactement, le cortège du Premier ministre a franchi les portes de l'Élysée, on l'imagine bien depuis dimanche d'ailleurs, on le sait, et les liens ne se sont pas rompus, bien au contraire, considérablement renforcés entre le Président de la République et son Premier ministre chargé de mener la campagne pour ces élections législatives, et on imagine bien aussi pour commenter les péripéties que connaît la vie politique française, notamment du côté des Républicains, Gabriel Attal, donc en ce moment, aux côtés du chef de l'État pour la stratégie de la campagne, et aussi pour réfléchir à la suite étant donné ce qui se passe notamment du côté des Républicains.
Merci Anne-Sora Dubois. Justement, des Républicains, nous allons en parler. L'exclusion, bonjour Alain Duhamel.
Bonjour.
L'exclusion d'Éric Ciotti, ce que l'on a vécu, c'était la seule issue pour les Républicains, exclure Éric Ciotti, qui conteste et est prêt à aller jusqu'au pénal.
Oui, mais écoutez, Éric Ciotti, c'est un général qui abandonne ses troupes. C'est comme Dumouriez en 1793, qui se fait battre et qui passe à l'ennemi le lendemain. Bon, dans ces cas-là, c'est normal que tout le monde réagisse et réagisse violemment. Bon, on sait très bien qu'il préfère, et il le démontre, son siège à ses fonctions de président.
Ah oui, il s'accroche, il voulait garder les fonctions de président.
Mais non, mais
il dit qu'il ira devant les tribunaux.
Oui, mais ça n'a pas de sens. À partir du moment où il a pris la position qu'il prend, à partir du moment où il rejoint le Rassemblement National, d'une manière ou d'une autre, à partir de ce moment-là, il ne peut pas demeurer président des Républicains.
Mais il en appelle au soutien de personne. Il en appelle au soutien des adhérents.
Alors, attendez. Je pense que en ce qui concerne le groupe parlementaire et en ce qui concerne les responsables politiques nationaux, il sera vraiment le pestiféré. En ce qui concerne une partie des militants et surtout une partie des électeurs, c'est-à-dire la fraction vraiment de droite mais en réalité très pré-Rassemblement National qui existait, il y en a sûrement qui le suivraient. Et pour les Républicains, qui en l'occurrence, ils sont vraiment pour rien, mais pour les Républicains, c'est une très mauvaise nouvelle, parce que déjà, ils sont donnés bas dans les sondages.
D'ailleurs, Alain, je vous interromps, mais il y a un sondage qu'on va révéler à 18h, un sondage Elabe, des sondages sur les intentions de vote, notamment et on a sondé les électeurs et les sympathisants LR sur le geste de Ciotti, ils sont partagés.
Oui, ils sont peut-être partagés, mais le niveau d'intention de vote des LR est encore pire que ce qui était le cas pendant les élections européennes, lesquelles étaient déjà pires qu'il y a un an aux élections européennes.
On va révéler tout ça dans 8 minutes.
Donc tout ça est très mauvais pour les LR. Il y en a une partie de leurs électeurs qui vont aller inévitablement vers le Rassemblement National. Il y en aura une petite partie, ceux qui sont plutôt des libéraux conservateurs, qui peut-être iront vers les macronistes. Et puis il restera un cœur et des implantations locales. Mais LR allait déjà mal, LR va encore plus mal.
C'est votre famille politique,
Mon famille politique, et c'est pour ça que je vois ça avec chagrin et incompréhension. Il y a une droite républicaine modérée qui existe, qui a toujours existé.
Mais pourquoi elle ne va pas chez Macron?
Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma réflexion. Il y a, étant donné qu'il y a une impossibilité pour le président de la République de se représenter, que la Macronie est très faible sur le plan du maillage territorial, il y avait tout un coup à jouer pour la droite républicaine, c'est-à-dire d'attendre un peu que le fruit tombe de l'arbre et de récupérer les restes de la Macronie. C'était ça, pour moi, la bonne attitude à avoir, c'est-à-dire ne pas insulter l'avenir, parce que les républicains ont été tellement violents vis-à-vis d'Emmanuel Macron et vis-à-vis de ce qui s'appelle maintenant Renaissance, ex-La République en marche, qu'il y a beaucoup de gens qui auront du mal à se retrouver là-dedans. Et franchement, ils ont joué la carte du durcissement, de la droitisation extrême, alors qu'ils avaient véritablement le concurrent qui avait capté cette partie idéologique. Ils ont tout joué à contre-temps et ils se trouvent maintenant écrasés par une mâchoire qui fait qu'ils sont condamnés à une mort évidente dans le format actuel.
C'est la fin des Républicains ?
Bah, écoutez, en tout cas, cette famille gaulliste, dont il faut quand même se rappeler qu'elle a totalement dominé la première moitié de la Ve République et qu'elle est restée puissante jusqu'à encore une dizaine d'années, aujourd'hui représente bientôt ce qu'a représenté, ça ne dira rien à personne, mais le PSU au début de la Ve République.
Ou le CNI.
Voilà, voilà. Bon, c'est-à-dire il restera des implantations locales, parce que Rosine avait raison, les macronistes ont par principe une très faible implantation locale, même s'il y en a qui ont fait des efforts et qui ont... Bon, les républicains, c'est l'inverse. Ils sont à la tête quand même de beaucoup de municipalités, notamment de villes moyennes
et de
régions. Mais enfin, là, ce qui va compter, c'est les municipalités. Et parmi les députés sortants, il y en a qui ont ce qu'on peut appeler des fiefs. Mais enfin, il n'empêche qu'ils vont encore perdre... Ils ne cessent de perdre des députés.
Ouais, ils ont une soixantaine de députés, bon, ils vont en perdre encore ?
Oh ben, je pense qu'ils vont en perdre en tout cas une vingtaine, et peut-être plus.
Ah oui ?
Et peut-être plus. Oui, oui, non, non, mais ils sont... On assiste, je le dis sans plaisir, parce que l'histoire gaulliste, c'est quand même une grande histoire politique, mais on assiste à la disparition progressive d'une famille qui a énormément compté.
Est-ce que c'est très grave ? La vie politique, elle est comme ça, des partis meurent, des partis naissent.
Oui, bien sûr.
Emmanuel Macron n'existait pas politiquement
il y a 7 ans. Les civilisations sont mortelles, et voilà. Les partis politiques aussi. Mais en regardant Éric Ciotti, je pensais au chef gaulois qui avait jeté ses armes aux pieds de César pour finir un an après être étranglé dans la prison Mamerti à Rome. C'est exactement ce qui va se passer.
C'est-à-dire ?
On jette ses armes comme il l'a fait au pied de son ennemi.
Il va se faire manger par Marine Le Pen ?
Bah, évidemment.
Mais il sera peut-être ministre ?
Ah oui ?
Bah, s'il rêvait d'être ministre de l'Intérieur, Éric Ciotti, c'est aussi un calcul.
C'est sûrement une espérance chez lui. Bon.
Bah, mais est-ce que ça veut dire qu'il va aller jusqu'au bout de sa logique ?
Ah oui.
Maintenant qu'il est exclu des Républicains.
Je suis persuadé qu'il acceptera un poste ministériel, pas qu'il l'acceptera.
Oui, mais au bout de sa logique, c'est-à-dire de ne pas se battre jusqu'au pénal comme il a l'intention et finalement de se dire je tranche, je pars, je vais chez Marine Le Pen, et puis derrière, peut-être que d'autres suivront. Est-ce que c'est pas ça finalement qu'il y a à faire ?
Je pense que l'aspect juridique de l'affaire est complètement secondaire.
D'accord. Il n'ira pas.
Bon, mais il est parti.
Oui, il est parti, il reviendra pas.
Voilà, il est parti.
Oui, mais
il arrive chez Marine Le Pen.
D'accord, mais est-ce que finalement il n'est pas logique avec ses idées
Il est logique avec son hémisphère droit.
Parce que la forme est sans doute condamnable, mais sur le fond.
Je vous réponds. Il est logique avec son hémisphère droit, c'est-à-dire que en ce qui concerne l'ordre, l'autorité, l'immigration, l'insécurité, les jeunes, etc., c'était à la limite, c'était un néo-Rassemblement national.
Donc c'est une clarification.
Mais en revanche, il était aussi, et il l'a d'ailleurs démontré dans des votes, souvent, et dans des propos, c'était aussi un libéral classique en matière économique. Mais classique. Et il le démontrait.
Vous n'êtes pas Jordan Bardella ?
Bon, Jordan Bardella, d'abord, je ne suis pas sûr qu'il ait tellement d'idées économiques, mais un populisme qui va probablement dans un premier temps se modérer sur le plan économique pour éviter des catastrophes. Mais enfin,
il a commencé déjà sur la réforme des retraites.
Écoutez, je pense que si Bardella n'était pas président du Rassemblement national, il y aurait peu de chances pour qu'il devienne gouverneur de la Banque de France.
Pardon. Non, mais c'est vrai que les républicains ont raté quelque chose, mais ça vient de loin. Le fait de cette dilution de la vie politique française,
de l'échec de François Fillon.
Alors, j'y venais, elle n'est pas imputée à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est l'effet, il n'est pas la cause. C'est parce que les ferments de la distorsion de la vie politique française, elles ont commencé avec le scandale de Dominique Strauss-Kahn qui fait que l'élection présidentielle choisit François Hollande qui n'était pas le bon candidat et qui scelle la mort de la gauche, vous voyez, le lapsus est intéressant, de la gauche sociale libérale, et le scandale de François Fillon qui tue la droite républicaine. Donc ces deux éléments, ces deux colonnes vertébrales de la vie politique française s'effondrent à cause de la faute de deux hommes,
Macron,
le sexe d'un côté, le fric de l'autre, et on arrive à ça.
Mais si on regarde les deux faits du jour,
Alain, le sexe et le fric ont tué la droite
et la gauche.
Et si on regarde les deux faits du jour, si on prend simplement dans l'ordre chronologique, ce matin, c'était avant d'arriver à l'exclusion d'Éric Ciotti, ce matin, c'était la prise de parole du chef de l'État en fin de matinée, qui s'est investi, qui a pris la parole et qui dit on est dans une bataille des valeurs contre les extrêmes. Le sursaut, c'est pour maintenant. Il réalise bien ce qui se passe, le président de la République, ce matin. C'était collé à la réalité de ce qu'il a provoqué, Alain.
Écoutez, moi, ce que j'en ai retenu surtout, c'est le rejet du défaitisme. C'est vrai que dans son camp, il y avait une tentation du défaitisme. Bon, il a voulu réagir contre ça. Je ne dirais pas que l'ensemble de sa conférence de presse était passionnante, ni qu'elle aura un effet politique marquant, je ne le crois pas. Je pense que son introduction était beaucoup trop longue et beaucoup trop abstraite. Je pense qu'il était bien meilleur avec les questions des journalistes. D'ailleurs, il ferait mieux de faire des introductions de 10 minutes au lieu d'une demi-heure et de répondre aux questions pendant une heure plutôt que pendant trois quarts d'heure. Bon, mais il a pu expliquer pourquoi il avait dissous. Il fallait quand même qu'il le fasse. Bon, et c'est vrai qu'il a donné deux arguments qui sont des arguments vrais. Un, s'il n'avait pas pris une initiative, les Français auraient eu le sentiment qu'il y avait une déflagration, mais qu'il s'en fichait. Bon, et deux, l'extrême droite en France, si on ajoute tout, potentiellement 40%, c'est quand même un événement politique qui mérite une conférence de presse du président en exercice. Pour qui c'est un échec personnel énorme, hein, le fait que l'extrême droite soit montée là, alors même qu'il en a fait son adversaire depuis 2017.
Bon, 66% de Français approuvent la dissolution selon un sondage IFOP Paris Match.
Ça n'est pas du tout incompatible. Alors il faudra voir si le fait que les Français soient d'accord avec la dissolution surprise d'Emmanuel Macron améliore ou pas sa popularité. Je n'en suis pas sûr.
Non, parce qu'ils sont parce qu'ils ont envie
je n'en
de
suis
sanctionner.
Pas sûr. Bon, alors, à partir de ça, il a aussi dit ce qui, je pense, a dû rassurer beaucoup de députés Renaissance qui en ont grand besoin, que ce serait Gabriel Attal qui dirigera la campagne et qu'il l'incarnera. Bah, il l'a dit. Bon, et d'ailleurs, ils se sont vus, ils se voient, etc.
Il est à l'Élysée en ce moment, Gabriel Attal.
C'est ce que je dis. Donc, c'est du point de vue des gens de Renaissance, c'est quand même.
Donc, vous pensez que les troupes sont prêtes au combat?
Je pense que de toute façon, elles n'ont pas le choix.
Parce que les députés macronistes, ils ont le moral à zéro. Quand
oui,
même,
mais je pense qu'ils l'ont moins depuis qu'ils savent que c'est Gabriel Attal qui les mènera au combat.
Le principal but de cette conférence de presse n'était ni de présenter un programme, ni d'élargir sa cible. Le problème, c'est comme le disait Jérôme Lindon, ils font conforter sa cible primaire quand on fait de la politique. Et la cible primaire de la Macronie, elle était durement touchée. Moi, évidemment, j'ai beaucoup d'amis, de gens qui m'ont téléphoné, sans doute comme vous, Alain, depuis dimanche soir, il ne comprenait pas le pourquoi de cette dissolution. Et j'ai l'impression qu'avec les explications du président de la République, ils ont commencé à se dire « c'est peut-être pas la bonne solution, mais c'est la moins mauvaise ».
Oui.
Et en cela, la conférence de presse est bonne. Maintenant, les éléments de programme qui ont été donnés m'ont paru faibles.
Mais le problème, c'est que à partir du moment où il faisait une introduction tellement longue, il y avait évidemment non seulement la tentation, mais la nécessité de présenter ce qui ressemblait à une ébauche de programme. Mais comme au même moment, il explique que c'est le Premier ministre qui va mener la campagne, franchement, ça entretient un certain fouillis quand même.
Alors justement, si vous le permettez, on va vous faire réagir tous les deux. Là, c'est en exclusivité qu'on va vous révéler le résultat du sondage Elab BFM TV La Tribune dimanche, avec les projections en siège. des élections législatives.
Apprendre avec
oui, bien sûr, mais ça donne quand même une petite tendance. Voilà, 220 à 270 sièges pour le Rassemblement national. Je rappelle que la majorité, c'est 289. 150 oui. à 190, l'alliance de gauche, divers gauche. Renaissance et Alliés, donc la majorité, ce qui était la majorité actuelle, 90 à 130, 30 à 40 pour les Républicains, qui vivent le feuilleton Ciotti, enfin l'exclusion d'Éric Ciotti, et 10 à 20 députés divers.
Oui. Donc, si la fourchette haute, 270, c'est la majorité absolue.
C'est tout près.
Et on voit une chute quand même de la représentation de Renaissance.
Ah bah, ça, c'est non, mais ça,
c'était prévisible.
C'était prévisible. Maintenant, il faut se méfier. Autant les sondages, en gros, sont fiables, autant les projections sont aléatoires. Et en plus, on est au début de la campagne. Et il s'est passé depuis. Ciotti ce matin, la conférence de presse tout à l'heure, etc.
Et on peut vous révéler que le Rassemblement national est au-dessus de 30%.
Vous ne pouvez pas les donner tout de suite.
On va les donner dans un instant, un peu de suspense, mais le Rassemblement national est au-dessus de 30.
Non, mais, de toute façon, ce que ça veut dire, ce qui est d'ailleurs est une évidence, que ça fasse plaisir ou pas, c'est le Rassemblement national qui est nettement en tête.
C'est la dynamique.
Et qui, de toute façon, et ce que je vous expliquais, je crois, hier, il y a un phénomène spécifique dans cette élection. Il y a des élections, j'allais pas dire tranquilles, ça n'existe pas, mais il y a des élections apaisées. Et puis il y a des élections dans lesquelles il y a une vague. Et là, il y a une vague.
Et on voit que la gauche aurait plus de députés que Renaissance.
Et la vague, c'est pour l'extrême droite, c'est comme ça.
Mais la gauche aurait plus de députés que Renaissance.
Comment ?
Ceux qui sortent. La gauche aurait plus de députés que Renaissance.
La gauche, je vous l'ai dit aussi. C'est une évidence. C'est pas une découverte, je suis pas Einstein, mais c'est une évidence. C'est du bon sens, tout simplement.
Non, mais ce qui est Alain, ce qui sort de ça, c'est que le merdier va continuer. C'est non. Il y a 80% de chance qu'il n'y ait pas de majorité.
Je ne suis pas du tout d'accord. Il ne va pas continuer. Il va s'amplifier
S'amplifier.
C'est pas du tout pareil.
Le merdier va s'amplifier.
Le merdier va s'amplifier.
Ben oui, voilà. Mais bien entendu.